Oui, merci, bonsoir. Et la question que je vais reprendre, je crois, a déjà fait son apparition dans cette Assemblée, puisqu'il y a eu des discussions déjà assez vives entre le côté économique, qui pourrait se révéler unilatéral, tyrannique, et d'autres côtés qui seraient protecteurs, comme le droit. Je voudrais non pas du tout résoudre cette question, qui est une immense question qui est devant nous avec la crise internationale, mais vous proposer des réflexions qui s'intéressent directement à la ressource humaine. Cette ressource humaine qui a été ce matin déjà évoquée par M. Negrosio, qui a dit « human resources », et donc il y avait tout un paquet de gens qui avaient collaboré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire « ressources humaines » ? Est-ce qu'on a le droit de dire ça ? En quel sens ? C'est une première question. Et je vais y rajouter une seconde. En effet, je voudrais voir avec vous s'il est possible de réfléchir en termes stratégiques sur les ressources humaines. Alors, pourquoi cette question ? Il me semble que, depuis ce matin, nous hésitons entre deux choses. D'une part, c'est le point de vue positif, c'est-à-dire le fait d'expliquer ce qui est. Alors, ce qui est peut être bien ou mal, on peut le critiquer, mais ça existe. Et puis, il y a d'autre part, ce qui doit être. À ce moment-là, c'est une perspective normative. Et il me semble qu'il est intéressant, non pas de disjoindre complètement les deux plans, mais de s'intéresser d'abord à ce qui est. Et il se trouve que les ressources humaines, d'abord c'est un mot qui est utilisé très souvent, c'est une expression très usitée, que beaucoup de gens prennent comme ça, que d'autres en revanche refusent, et donc il me semble qu'on peut s'interroger un peu sur les pratiques qui sont derrière. Et au-delà de ça, mais il me semble intéressant de regarder finalement la variété des comportements que l'on peut adopter, d'où l'idée de stratégie, c'est-à-dire de prendre des comportements qui seraient extrêmement construits. Alors, je vous propose une intervention en trois temps, très bref, bien sûr. Tout d'abord, donc, un mot sur cette expression. Est-ce qu'on a le droit de dire ça, ressources humaines, au lieu de dire les gens, les personnes, l'humanité, vous ? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce sera une première question. Ensuite, j'aurai un regard... Alors, j'ai dit généalogique, je veux dire par là que je vais m'intéresser un petit peu à la manière dont ça s'est constitué. C'est en fait une expression très récente, et donc je voudrais revenir sur son contenu et essayer d'illustrer en quoi elle est l'aboutissement d'une évolution. Alors après, je vous proposerai le regard stratégique. C'est un regard que j'ai tenté de développer il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, il y a assez longtemps, qui poursuit sa carrière bienveillante dans le monde académique, mais sans expansion majeure. C'est quelque chose d'un peu restreint sur quoi je m'exprimerai. Donc, je vous dirai ce que sont ces options. Et j'en viendrai à ce qui, alors là, fera le lien entre le positif et le normatif, c'est-à-dire l'idée que eh bien, les ressources humaines, elles sont entre promotion, hein, c'est bien les ressources humaines, il faut les valoriser, etc., promotion et prédation, c'est-à-dire qu'on peut aussi les utiliser à des fins tout à fait négatives et destructrices. Alors, ces ressources, tout d'abord. Donc, ressources humaines, où est-ce qu'on trouve ça ? Eh bien, essentiellement dans une littérature qui n'est pas la mienne. Moi, je suis socio-économiste. Dans la littérature des gestionnaires, vous avez énormément de manuels, de disciplines, d'enseignements, de diplômes qui s'appellent gestion des ressources humaines. Alors, la première critique qu'on peut faire vis-à-vis de ça, elle a été faite par un économiste lyonnais, aujourd'hui... non pas oublié, mais quand même pas mal relégué aux oubliettes, François Perroux. Et François Perroux disait, on n'a pas le droit de dire ressources humaines au pluriel, c'est la ressource humaine, parce que cette ressource, c'est la seule que nous avons à valoriser, c'est une fin, c'est pas un moyen. Et donc il y avait dans cette revendication du singulier, finalement une protestation très, très forte. Alors, au-delà de ça, c'est quand même assez simple de remarquer que ressources humaines, c'est facilement associé à des situations de domination, d'exploitation. Il suffit de lire les journaux d'aujourd'hui pour voir que la question du sens du travail est revenue, et avec quelle cruauté dans notre société où il y a des gens qui se suicident parce que le travail ne fait pas sens. Donc, on voit bien que c'est un terme chargé d'énormément de choses. Alors, dernière remarque toujours dans cette première colonne. Bon, si on veut parler de ressources humaines, pourquoi pas, on va voir, on va donner un contenu tout à l'heure. Et nécessairement, l'usage sera interactif. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas gérer, évidemment, c'est une platitude, mais je crois qu'il vaut mieux le dire, vous ne pouvez pas gérer des ressources humaines comme on joue, comme on peut gérer une couche de filons métalliques ou comme, je ne sais pas, du pétrole ou des pommes de terre. Donc, ce n'est pas comme ça, c'est interactif, c'est des gens à qui vous parlez, donc il va se passer quelque chose, et donc c'est évidemment très important. Alors, pourquoi ce regard stratégique ? Pourquoi peut-on l'explorer ? Ah, c'est que précisément, une stratégie, c'est un comportement interactif, multidimensionnel et de long terme. Autrement dit, ce sont des choix qui, bien ou mal, essayent d'anticiper ce que feront les personnes vis-à-vis desquelles vous exprimez ces choix. Ça, c'est le côté interactif. Le côté multidimensionnel veut dire qu'en principe, ça ne se réduit pas à une optimisation mathématique et en particulier pas à une seule variable. Et de long terme, ben oui, la stratégie, c'est le long terme. Le court terme, ça s'appelle la tactique. Donc la stratégie engage sur une direction à long terme. Alors, autrement dit, ce qui va être le cœur de mon interrogation aujourd'hui, c'est cette part stabilisée et collectivement organisée de la gestion des ressources humaines et que l'on peut donc concevoir en termes de stratégie. Alors voilà une définition, je suis désolé, elle est longue, mais je crois que ça vaut le coup de la commenter un petit peu. Donc les ressources humaines, qu'est-ce que c'est ? D'abord c'est au pluriel parce que c'est varié. Hein, voilà. Les ressources humaines, c'est parce que vous avez à la fois des gens qui ont des capacités intellectuelles, d'autres qui ont des capacités plus manuelles, d'autres qui sont dans des positions de commandement, d'autres qui sont dans des positions d'exécution. Donc voilà, c'est cette variété hein, qui est dans le pluriel. Alors qu'est-ce que c'est ? Donc les efforts, les connaissances, les capacités et les comportements engagés par lesquels les gens contribuent à une organisation de travail. Donc, vous voyez, effort, qui était le vieux terme d'autrefois, hein, imaginez quelqu'un qui a une pelle, qui a du charbon, bon, voilà. Et alors, depuis, c'est pas ça, les connaissances, les capacités, les comportements engagés, vous voyez, ça inclut la motivation, l'incitation, ça inclut tout ça. Et donc, ce sont des gens qui travaillent. Alors ensuite, vient quelque chose d'intéressant pour nous, en effet, c'est, ça devient un peu plus compliqué. Les ressources humaines sont une composante d'un échange, donc on va les échanger contre quelque chose, dans une relation d'emploi, on va les échanger évidemment contre un salaire, éventuellement contre des conditions de travail, donc une relation d'emploi ou un arrangement contractuel plus temporaire, alors ça c'est un échange. Et un échange, en principe, c'est entre deux parties égales. Et vous voyez qu'ici, je laisse de côté l'esclavage et ce genre de choses. Donc l'échange, et alors elles sont utilisées de manière managériale, ce qui veut dire que là, il y a hiérarchie, il y a discussion, il y a quelqu'un qui oriente les choses, qui dit « on va y aller », il peut y avoir discussion, mais il y a des exécutants et des gens qui donnent des ordres. Et alors, tout ça, pourquoi ? Eh bien, pour mener à bien les tâches. Et alors, voici tout d'un coup l'injection d'une petite zone, une petite dose, pardon, d'économie pour permettre à l'organisation de poursuivre son existence. Alors, on pourrait dire « oui, attendez, c'est pour produire, c'est pour survivre ». Et ben, dans notre monde moderne, non, en principe, la contrainte principale maintenant, ce n'est pas celle-là. C'est tout simplement le fait que l'organisation, dans la concurrence, doit survivre. Donc, vous voyez, une discussion qui est, une définition, je veux dire, qui est l'aboutissement d'énormément de choses. Alors, je les résume ici très brièvement en trois points. Premier point, on est passé d'une vision des ressources humaines, la vision initiale, qui était totalement homogène, et c'était le travail non qualifié, et c'était ce qu'on appelait au XVIIIe siècle et au début du XIXe, les bras. Voilà. Les bras, c'est la première ressource humaine. Alors maintenant, on n'en est pas là du tout. Vous avez vu l'effort, les connaissances, l'engagement, la motivation. Et on en est donc aux capacités cognitives. Les gens viennent en quelque sorte utiliser leur cerveau pour vous, hein, dans la ressource humaine. Et on peut résumer ça dans un grand renversement très connu qu'on doit à Michel Foucault. Au début du 19e, au moment où naît l'économie politique, c'est la conscience de la rareté, c'est la courbe malthusienne qu'on a vue tout à l'heure. Et puis maintenant, on peut dire que les choses se sont renversées. C'est plutôt la rareté de la conscience, c'est-à-dire que face à l'abondance supposée, et malgré tout très très inégale, des biens et des consommations, eh bien, ce qui manque, c'est de l'attention, c'est de la capacité à décider. Ce qui manque, donc, c'est des capacités psychiques, c'est la rareté de la conscience. En quelque sorte, on est passé de Ricardo à Freud. Alors, ça, c'est une première dimension, donc. Et la deuxième dimension, donc ça, c'est la dimension d'évolution. Et alors, la dimension de compromis, eh bien, c'est qu'au cours du temps, la ressource humaine, eh bien, elle était la classe des travailleurs, les ouvriers. Bon, c'est plus ça, maintenant, de la même manière. Ça ne veut pas dire que la classe ouvrière a disparu. Nous sommes passés, c'est une formule facile, mais je crois qu'elle dit des choses qui sont utiles. Nous sommes passés de la lutte des classes à la lutte des classements. Et nous retrouvons ici, et ça c'est interne au droit d'ailleurs, la tension entre la liberté contractuelle et la subordination. Bien, le droit du travail articule, combine, compense, équilibre ces deux dimensions. Alors dernière chose, il me semble important de noter que de plus en plus nous passons à une vision dynamique de la ressource humaine. Il s'agit de savoir apprendre, de savoir s'adapter, d'innover, et ces dimensions deviennent de plus en plus importantes. Alors, je vous présente maintenant très brièvement deux grilles, qui sont deux grilles stratégiques. Ça marche, ça ? Oui, c'est ça. Voilà. Alors, il y a deux grilles qui sont toutes les deux simplement avec quatre cases. Qu'est-ce qu'elles disent ? Elles disent la chose suivante. Que peut-on faire quand on a des ressources humaines ? Eh bien, on peut soit capter, soit fixer. Vous voyez, c'est ce que vous avez, je vais y arriver, voilà, la captation, fixation. Et je distingue tout simplement ici main-d'œuvre élémentaire et main-d'œuvre diversifiée. Alors, la première chose que vous pouvez faire, si vous voulez capter simplement, ça veut dire ne pas s'attacher les gens, mais être là où ils sont. Eh bien, c'est se localiser là où il y a de la main-d'œuvre et éventuellement se délocaliser là où elle est moins chère. Donc, c'est une première option stratégique et elle s'oppose complètement à la fixation qui consiste à dire ces gens, je veux les garder. Alors, c'est en particulier le cas de la stabilisation du collectif en carrières aménagées. Alors, c'est ce qu'on appelle des marchés internes. L'idée, c'est qu'on s'organise pour des relations de très long terme avec des salariés qu'on veut garder, qu'on veut sécuriser, qu'on va faire évoluer en interne. Alors, l'expression de marché interne est un petit peu trompeuse, puisque précisément, ce ne sont pas vraiment des marchés. Ce sont des dispositifs contractuels de très long terme qui suspendent le marché et qui le remplacent par des règles qui sont des règles impersonnel, donc ça ne se négocie pas du tout de la même manière. Alors ça, c'est donc une grande dualité que nous constatons aujourd'hui. Ben oui, une PME ne va pas inventer un marché interne, et une toute petite firme, prenez un marchand de glace à la plage l'été, ben, c'est pas là un endroit où on va aménager des carrières avec des progressions, ce genre de choses. Donc il y a une première diversité qui apparaît. Alors, bon, on peut la compléter rapidement, là, c'est très simple. La case numéro 2, modulation de l'avantage concurrentiel. Ah, c'est l'idée que si vous avez de la main-d'œuvre diversifiée, il faudra que vous puissiez attirer certaines catégories alors que d'autres sont déjà là, puisque vous êtes dans une logique de captation. Donc, ceux qui vous manquent, comment les attirer ? Par exemple, en mettant un salaire plus élevé que la moyenne du marché. Donc, le signal prix apparaît ici comme une manière de faire venir certaines catégories de main-d'œuvre. Prenez une plateforme pétrolière, ce n'est pas un endroit très amusant. Comment faire que les gens travaillent sur une plateforme pétrolière? Vous leur dites, vous serez payé 50% de plus que le marché. Vous ne voulez pas venir? Vous aurez seulement 3 semaines par mois et puis 1 semaine de vacances. Vous ne pouvez pas? 2 semaines. Bon, vous modulez jusqu'à ce que les gens arrivent. Alors, Staline avait d'autres manières de faire partir des mineurs à l'autre bout de l'URSS, mais là, je suis, comme je l'ai dit, dans le régime du contrat. Alors, voilà, et puis la dernière, la case numéro 3, paternalisme et attitude fordienne, c'est le marché interne en simplifié pour simplement certaines catégories de main-d'œuvre. Ça a été beaucoup exploré au 19e siècle. Alors, simplement, j'ai remarqué que la grille statique ne suffisait pas et que désormais, l'accumulation des connaissances, des compétences, le fait qu'il y ait de l'innovation, eh bien, c'est un processus qui ne peut pas se satisfaire de ce côté statique. D'où la possibilité d'envisager d'autres catégories d'options stratégiques. Alors, les voici. Et ici, vous voyez que vous avez un parcours professionnel à dominante interne à la firme, interne ici. Et là, vous avez la valorisation individuelle et la valorisation collective. Alors, que se passe-t-il ici? Eh bien, si on reprenait notre marché interne que nous avons vu tout à l'heure, désormais, il est mis en mouvement. Ça veut dire qu'au cours du temps, bien sûr, on va s'attacher à moyen terme et peut-être même à long terme avec la main-d'œuvre, mais ça pourra bouger. On va peut-être quand même faire circuler les gens. Alors, à ce moment-là, il y a 2 manières de les faire circuler. Vous voyez que vous en avez une ici, valorisation individuelle de l'investissement et parcours professionnel externe. Alors, c'est une logique de type A, A comme américain, en fait. Ça a été élaboré par Masahiko Aoki, cette grande distinction entre A et J, que je reprends ici, mais que j'enrichis. Et donc, la logique de type A, c'est vous êtes propriétaire de votre diplôme, si à un moment ça ne vous plaît plus, eh bien écoutez, on se sépare, et si nous-mêmes, nous n'avons plus vraiment besoin de vous, eh bien, nous prendrons des gants, nous mettrons des indemnisations, mais nous allons nous séparer de vous. Alors, à l'autre côté, vous avez la logique de type J, comme japonais, et c'était une des grandes oppositions des années 90, et alors à ce moment-là, l'attachement demeure, et simplement, il y a une valorisation collective de l'investissement, et le parcours est à dominante interne, ça veut dire qu'on garde les gens. En revanche, on leur dit, écoutez, félicitations, monsieur Yamamoto, vous venez d'être recruté, mais votre poste est à 600 km d'ici, il faudra y être demain matin. Et donc, il y a l'idée que vous y ferez ce qu'on doit y faire, vous serez polyvalent, c'est nous qui allons décider ça. En revanche, en échange de cette discipline-là, eh bien, nous vous garantissons la sécurité. Donc, vous voyez, 2 manières de fonctionner. Alors, ce qui est intéressant dans la typologie telle que je l'ai enrichie ici, c'est la case 6 essentiellement. Autrement dit, des possibilités où vous allez avoir une valorisation collective de l'investissement, c'est porté par certaines collectivités, mais un parcours professionnel externe. Alors, c'est là qu'on trouve les districts et les réseaux, c'est-à-dire les dispositifs dans lesquels la main-d'œuvre est fixée quelque part, mais elle est fixée parce qu'il y a une municipalité, une école professionnelle, et la possibilité, en cas de crise, de changer d'entreprise, éventuellement de créer certaines entreprises, puis, une fois que ça va mieux, de redevenir salarié. Vous voyez, ces mouvements qui débordent du cadre de la firme initialement considérée, et qui, finalement, permettent de stabiliser les gens tout en les faisant bouger, autrement dit, une certaine conciliation entre le mouvement et la sécurisation. Alors, dernière case, celle que j'ai gardée pour la fin, c'est celle qui m'a le plus ennuyé dans les interprétations. Vous savez, dans les typologies, il y a toujours une case qui vous embête. Alors, c'est celle, est-ce que je l'enlève carrément, je dis elle est contradictoire. Elle est à la limite d'être contradictoire, regardez. Valorisation individuelle de l'investissement et parcours professionnel à dominante interne. Alors, qui c'est ça ? Ben, c'est vous. Attendez, les chercheurs, qu'est-ce que c'est ? Ils sont là. C'est-à-dire que les représentants de la fonction publique à un certain niveau d'autonomie sont là. Ils sont détenteurs de leurs qualifications individuelles et d'ailleurs très souvent de leurs projets professionnels et restent intégrés dans le grand ensemble. Donc, voyez, c'est une stratégie possible, pas la seule ici. Alors, à quoi ça sert tout ça ? Ben, tout d'abord, je crois qu'il faut remarquer, et là, je suis du côté de ce qui est, que toutes ces options existent aujourd'hui, y compris la première qui apparaissait tellement simpliste, hein, se mettre là où il y a de la main-d'œuvre. Eh bien, c'est une des plus sophistiquées. Si vous prenez la firme Nike, qui est très connue comme équipementier de vêtements de sport et de chaussures, eh bien, tout le monde sait qu'il y a un centre créateur qui est aux États-Unis, et tout le reste, ce sont des entreprises tenues d'une main de fer, d'ailleurs, et qui sont en Extrême-Orient, et qui, d'ailleurs, sont passées d'une première zone d'Extrême-Orient à une deuxième. Par exemple, Nike, maintenant, explore l'intérieur de la Chine, parce que c'est moins cher que le bord, etc. Et donc, on voit une sorte de délocalisation permanente, quelque chose qu'on peut trouver très agressif, bien sûr, mais qui est quelque chose qui a sa logique et qui s'observe. Donc, tout ça s'observe, et... Qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu au-delà de cette observation que tous observent ? Bah, tout d'abord, c'est que nous vivons de manière très visible le passage difficile et douloureux de la grille 1 à la grille 2. Prenez les restructurations, prenez ces salariés statiques à qui souvent on n'avait même pas appris à lire. Hein. À Renault-Billancourt en 1988, quand ils ont fermé l'entreprise, il y avait 30% des salariés qui étaient là depuis 20 ans et qui ne savaient pas lire. Alors, ça, c'est de la destruction de ressources humaines, hein, on peut le dire. Et derrière cette affaire-là, il y avait en fait un certain type d'accord avec ces salariés qui étaient, écoutez, on vous prend à la chaîne, on vous garde, et puis on n'en parle plus. Et puis cet accord purement statique est devenu insoutenable aujourd'hui. Donc nous vivons avec une très grande difficulté, et ça se voit dans les restructurations, dans ces fermetures d'entreprises où il y avait des gens qui ne demandaient rien à personne, qui étaient là depuis 30 ans, et à qui tout d'un coup on dit, ben maintenant il faut vous débrouiller, il faut vous recycler. Donc vous voyez cette violence qui est là, il me semble que la grille en rend compte. Alors la grille permet aussi de voir l'extraordinaire ambiguïté du rapport de ces stratégies vis-à-vis des salariés, et en particulier de leurs représentants. Les marchés internes traditionnels, alors ça, c'était une situation où, très clairement, il fallait un syndicat. Non seulement il fallait un syndicat, mais c'était avec lui qu'on construisait le marché interne, de manière à ce qu'il soit associé au mécanisme maison, etc. Il peut y avoir des marchés internes sans syndicat, mais c'est tellement mieux et tellement plus simple avec le syndicat. En revanche, dans les stratégies récentes, celles d'aujourd'hui, eh bien, on ne peut plus faire ça de la même manière. Le syndicat protège l'emploi tel qu'il est, très spontanément, pas toujours. Il faut donc organiser des mobilités socialisées, il faut trouver d'autres partenaires, et donc les stratégies doivent se reconstruire autrement, notamment avec les collectivités territoriales, avec des constructions collectives de compétences. Le modèle du district devient très important, et d'ailleurs déborde de cette fameuse case 6 que j'avais vue tout à l'heure. Enfin, dernier point, il y a une limite à cette représentation qui explique peut-être pourquoi elle n'a pas connu un énorme succès, c'est qu'elle ne vaut évidemment que lorsque les environnements sont suffisamment stables. Or, précisément, les environnements sont de plus en plus instables. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? J'en viens à mes deux dernières diapos. Il s'est passé à la fois le Capitole et la roche tarpéienne, c'est-à-dire l'excès d'honneur absolu et la catastrophe directe. Alors là, ce sont des gestionnaires qui ont proposé toute une théorie qui a commencé à s'imposer à la fin des années 90 et qui est de parler de champion des ressources humaines. Alors, vous voyez, vous avez une colonne positive, champion des ressources humaines. Ça veut dire, désormais, c'est indispensable à l'avantage compétitif. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ? Eh bien, nous allons fournir l'entreprise en talent. Hein, voilà le langage qui était utilisé. Et puis, il faut aligner, alors là, le terme devient déjà plus inquiétant, aligner le choix des stratégies concernant les ressources humaines sur les choix généraux de l'entreprise. Je veux les personnes qui sont nécessaires au bon moment, c'est tout. Alors, quels sont les inconvénients de cette vision, où ils deviennent en quelque sorte des business partners, hein, des partenaires pour les affaires? Quelle promotion, hein, les gestionnaires des ressources humaines. Mais qu'est-ce que ça devient? Une vision financière et restrictive des ressources humaines, l'idée qu'on s'accommode des restructurations permanentes, une individualisation en trompe-l'œil, et enfin, une perte de confiance. Et donc, tout ceci s'est manifesté par un échec intellectuel visible aujourd'hui. Je termine, voilà ma conclusion, 3 points. Les ressources humaines sont produites tous les jours. Ben oui, c'est ça. Tous les jours que Dieu fait, chaque fois que quelqu'un vient travailler, la ressource humaine, elle n'est pas préexistante, elle est produite. Donc c'est ça la difficulté, évidemment, première de cette affaire-là. Ensuite, elles sont au cœur, évidemment, des capacités dynamiques, concurrentielles de la firme moderne. Mais, et ce sera mon dernier point très, très prudent, elles débordent non seulement de la firme, mais aussi des choix stratégiques qu'elle fait. Et donc, il s'agit de choix à la croisée de multiples logiques, stratégie générale de l'entreprise, choix d'organisation du travail, contrat social. Je terminerai en disant que c'est un choix politique.
Alors, on prendra une seule question dans la salle, s'il y en a une. Et en attendant de savoir s'il y en a une, moi je vais poser la mienne. Est-ce qu'on peut placer les ressources humaines au même titre qu'on place de l'argent par des formations, ou est-ce que vous avez réfléchi sur cet aspect?
Je trouve cette question terrifiante, mais oui, je ne sais pas si on peut spéculer sur les ressources humaines. On peut sûrement spéculer sur les capacités d'innovation. Il me semble que justement, toute la difficulté dans cette affaire, c'est que vous ne pouvez spéculer qu'en laissant la liberté, c'est-à-dire en prenant le risque que ça ne marche pas et en l'acceptant d'emblée. Il me semble que les ressources humaines sont typiquement un domaine dans lequel les calculs les plus sophistiqués s'inversent lorsqu'ils se limite à privilégier un indicateur, une limite. Et donc, en fait, le véritable pari, c'est celui d'une interaction. Alors, juste une remarque sur comment est-ce qu'on peut envisager quelque chose d'un peu dynamique là-dedans. Ben, le paradoxe, il est simple. C'est que si vous voulez fidéliser les gens maintenant, les garder avec vous, pour qu'ils apprennent des tas de choses, etc., eh bien, il ne faut pas les stabiliser dans une carrière en interne. Il faut leur dire, ensemble, on va organiser votre mobilité. Autrement dit, leur donner des garanties sur l'évolution de leur carrière, le fait que ça soit construit, le fait qu'ils auront leur mot à dire. Et donc, le paradoxe est là, c'est que si vous voulez les garder, il faut envisager qu'ils partent.
Bernard, ici, j'avais une question. Dans cette façon de poser la question, et je pense qu'elle est très intéressante, est-ce que la dimension compétition, c'est vraiment l'horizon indépassable ou... En voyant passer des termes comme lean administration ou des choses comme ça, est-ce qu'on est capable d'inventer autre chose que cet horizon de la compétition à tout prix?
C'est-à-dire que là, les conceptions que j'ai développées sont des conceptions qui se placent à l'intérieur du paradigme concurrentiel. C'est-à-dire que, si vous voulez, moi, mon point de départ dans cette réflexion sur les stratégies, c'était de dire, voilà, il y a eu un auteur majeur en gestion qui s'appelle Michael Porter et qui a écrit un livre sur plusieurs d'ailleurs, sur les options stratégiques, et lui il dit, voilà, la question stratégique c'est simple, c'est comment écrabouiller votre rival. Bon, je simplifie, hein. Il dit comment obtenir un avantage concurrentiel, mais je vais pousser la chose à son terme. Autrement dit, la vision de Porter est prodigieusement inamicale, hein. C'est comment dominer sur un marché. Bon, voilà. Alors ensuite, il y a des suiveurs, des petits là, qui sont aux franges, très bien, mais pas plus. Donc la vision de Porter disait, il y a 3 manières de dominer. L'une, c'est les coûts, je lamine les coûts, pensez à un supermarché qui achète des milliers de salades et qui les vend très peu cher. Donc ça, c'est une première possibilité. Vous pouvez dominer par la qualité, c'est ce que font les grandes marques de luxe, hein, Vuitton, Ferrari, etc. Et puis, entre les deux, vous pouvez dominer par le fait de vous intéresser à une niche de consommateurs particuliers à qui vous offrez un service bien fait. Par exemple, prenez un vendeur de peinture qui, en même temps, a des gens qui conseillent pour les bonnes teintes, les bons matériaux en fonction, etc. Voilà. Autrement dit, du service sur mesure, c'est pas génial, c'est pas la qualité, c'est pas le coût, mais c'est entre les deux. Voilà. Alors, Porter ayant dit ça, je me suis dit, à l'intérieur de ce cadre concurrentiel, qu'est-ce qu'on peut dire pour les ressources humaines? Mais il est vrai que les développements que j'ai pu faire ici montrent que la manière dont est gérée la concurrence à l'échelle du monde tous ces temps-ci, bon, on va le dire modestement, n'est pas satisfaisante, on va dire comme ça, et puis que de la même manière, la façon dont on organise la concurrence vis-à-vis de la main-d'œuvre, qui est une grande spécialité française, nous avons 40 ans de chômage de masse maintenant derrière nous, qu'est-ce que nous avons organisé? La concurrence entre les travailleurs, c'est-à-dire quelque chose qui fait que, ça ne vous plaît pas, on va prendre quelqu'un d'autre de plus diplômé que vous, qui d'ailleurs demandera moins cher pour être au même endroit. Donc nous sommes malades de ça, hein. Il y a une sorte de maladie, et là, c'est un enjeu qui est un enjeu de macroéconomie. Il se trouve que l'économie du chômage de masse, bah, c'est quelque chose, c'est une véritable maladie dont on a un mal fou à se défaire. Or, il suffit d'aller dans certains pays qui ne sont pas très loin de chez nous, où il n'y a pas le chômage de masse, mais pour voir des comportements tout à fait différents. Donc la compétition, la concurrence, c'est une chose. La manière dont elle est vécue et organisée en France, c'en est vraiment une autre.
Merci.